Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront. » Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, il l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » En écoutant cette parole de Jésus, je pense à des amis très chers qui s'appellent Jean et Lucette Alingrin, qui habitent en Maine-et-Loire, du côté de Beaugé, et qui ont fondé vers les années 1970 en France une association d'accueil pour les enfants handicapés et qui toute leur vie, ils ont maintenant entre 80 et 90 ans, ont monté des dossiers pour faire adopter des enfants dont personne ne voulait, jusqu'à faire adopter des enfants trisomiques qui n'existent plus aujourd'hui à cause de la façon dont l'eugénisme s'est mis en place, mais on leur téléphone d'un peu partout pour donner des enfants atteints de diverses maladies et dont personne ne veut. Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Je voudrais peut-être enfiler les 3 lectures, si j'ose dire, à partir de 3 mots. Le premier, ça aurait été le mot « épreuve ». Dans la première lecture, vous avez remarqué, tiré du livre de la Sagesse, on met en scène des impies, des athées, des gens qui ne croient pas en Dieu et qui tendent des pièges à ceux qui sont croyants et qui disent « Ah ah, on va bien voir si sa foi lui permet de tenir. Soumettons-le à des outrages, à des tourments. » Nous saurons ce que ça vaut, nous éprouvons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, Dieu interviendra pour lui. Épreuve. Voilà, nous avons dans nos vies des épreuves, nous sommes mis à l'épreuve. Et le mot épreuve, d'ailleurs, dans le texte grec, c'est le même mot que tentation. Quand Jésus dit « fait que nous n'entrions pas en tentation », la grande tentation, au fond, c'est l'épreuve de l'apostasie dans laquelle nous risquons de tomber, c'est-à-dire de renier notre foi. Et le Seigneur nous permet que nous, à certains moments, nous soyons mis à l'épreuve pour vérifier la qualité de notre foi, de notre vie chrétienne. Et il permet ainsi que des gens qui nous entourent, eh bien, nous chatouillent un peu sur ces questions pour voir qu'est-ce que ça donne, quoi, hein, si vraiment on est chrétien. Et ainsi, c'est quelque chose de normal, mais ici, pourquoi est-ce que c'est mis en première lecture? Parce que Jésus, dans l'Évangile, annonce qu'il va être livré aux mains des hommes, être tué, et 3 jours après sa mort, ressuscité. Jésus va être mis à l'épreuve lui-même à travers sa passion Et il nous dit que pour le suivre, eh bien, il faut accepter ce chemin d'épreuve, ce chemin de renoncement. Un deuxième mot que je voudrais prendre, c'est celui de désir. Vous avez remarqué dans la lettre de Jacques que nous lisons en ce moment, Jacques qui était le cousin de Jésus et qui était le premier responsable de la communauté de Jérusalem, on pourrait dire le premier évêque de Jérusalem, Jacques qui était vraiment juif dans sa fibre profonde, mais qui s'est converti à Jésus. Jacques qui est un peu rude dans sa lettre et qui dit des choses de façon un peu carrée. Et vous avez remarqué comment il dit à ceux à qui il écrit, donc c'est sans doute aux chrétiens de Jérusalem, il dit « Vous êtes plein de convoitises, vous avez des désirs qui mènent leur combat en vous-même. » Et voilà, alors d'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? À cause de vos désirs mauvais. Hein? Vous êtes jaloux, vous entrez en conflit, vous êtes plein de convoitises. Bon, alors il nous faut entendre ça, qu'il y a en nous des désirs mauvais et qu'il nous faut les identifier et puis les porter au Seigneur. Pas les cacher, hein, parce que ça, c'est. Il ne faut pas mettre au porte-manteau le truc qui nous déplaît en disant, vous voyez, comme je suis beau, mais j'ai laissé de côté. Non, il faut présenter au Seigneur en disant, Seigneur, purifie-moi, comme on le fait au début de la messe, et le faire quelquefois en confession. Hein, purifie-moi, Seigneur, de ces désirs mauvais qui sont en moi. Et troisième mot que je vais dire, c'est le mot de crime. Jésus parle des enfants, mais auparavant, Jésus enseigne ses disciples et puis il leur dit qu'il va devoir passer à travers la passion, mais qu'il ressuscitera. Et ils ont peur de l'interroger, ils ne comprennent pas. Et on n'aurait pas fait mieux à leur place, je pense. Et alors, arrivé à la maison, Jésus questionne, de quoi discutiez-vous en chemin? Alors, ils regardent tous leur godasse, parce que personne n'ose dire, mais enfin, il y en a quand même un qui dit, enfin, je ne sais pas très bien, mais ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Le désir de puissance, le désir de prestige, le désir de qui était le plus grand, de prendre la première place, et donc à l'occasion éventuellement d'écraser les autres pour parvenir à la première place. Désir mauvais. Alors évidemment, le clash est d'importance, puisque Jésus commence par dire que lui, il va s'abaisser jusqu'à la mort, et les autres, eux, cherchent à identifier qui va obtenir la première place. Et alors Jésus est obligé de prendre un symbole, un signe. D'abord il s'assied pour dire ça, il s'assied, ça veut dire qu'il enseigne. Quand Jésus est assis, il enseigne. Au sommet de la montagne, assis, il donne les béatitudes. Et Jésus va prendre un enfant, le placer au milieu d'eux et leur dire, donc ce dont je parlais tout à l'heure, quiconque accueille un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Cette parole, il faut la laisser retentir à nos oreilles pour comprendre aussi la gravité de ce qui se passe en ce moment dans l'Église à travers la révélation de nombreux faits de pédophilie de la part du clergé et de dissimulation et de couverture de la part de nombreux évêques. On dit qu'en France, il y a environ 27 évêques compromis dans ces choses-là, et donc de complicité. C'est d'une extrême gravité. C'est d'une extrême gravité précisément parce que Jésus a dit qu'il s'identifiait à l'enfant. Et si l'Église n'est plus un lieu sûr pour les enfants, c'est d'une extrême gravité. Nous en parlions l'autre jour en réunion d'équipe d'animation pastorale et avec notamment les jeunes foyers qui étaient là, nous avons dit que ce serait bien de pouvoir dire un mot à ce sujet dans 2 semaines, 3 semaines, le 13 octobre, à la première messe des familles qui aura lieu ici, et de s'adresser aux familles, y compris devant les enfants qui seront là, mais pour dire un petit peu quelle est notre position ici dans la paroisse par rapport à ces choses, par rapport à la protection des enfants. Parce que nul doute que ce qui se passe en ce moment est évidemment quelque chose qui est destiné à transformer le regard que les gens portent sur les prêtres, évidemment, et donc à saper la confiance dans l'Église. Mais à mon avis, l'Église s'est pris les pieds dans le tapis elle-même, parce qu'il y a vraiment une culture de dissimulation et de couverture qui est vraiment extrêmement importante. Donc cela va nous appeler certainement, et j'espère qu'il y aura des courage, des évêques pour avoir le courage de le faire, à changer les pratiques, en particulier les pratiques de secret. Je pense au conseil épiscopal, par exemple. L'évêque s'entoure de différents conseils, mais il y a un conseil qui se réunit toutes les semaines pour gérer avec lui. Personnellement, je proposerais que ce conseil soit, comme à l'Assemblée nationale, ouvert à tous, qu'on puisse avoir un droit d'écoute et de regard sur ce qui se dit. Je ne vois pas pourquoi ce serait absolument secret. Il faut changer les pratiques et en particulier extirper ce qui relève de la dissimulation et qui peut donc mener au secret et donc à la couverture. C'est absolument nécessaire si on veut sortir de la crise actuelle. Voilà, je voulais simplement dire ces choses qui, évidemment, avec le suicide d'un prêtre dans le diocèse de Rouen, un prêtre jeune de 38 ans, qui certainement en est arrivé là parce que à la fois il avait commis une faute morale de l'ordre des mœurs, et puis également qui devait être un peu en burn-out, puisqu'on avait identifié au mois de juin, avant les vacances, qu'il était un peu limite au niveau de la charge qui pesait sur lui. Il y a tous ces multifactoriels, certainement, pour expliquer son geste, mais vous comprenez bien que c'est quelque chose qui touche les prêtres de très près, de très très près. Se dire que l'un de nous est capable de faire cela, ça veut dire qu'il était vraiment dans un trouble profond, et que l'épreuve, quelquefois, peut mener à des ruptures, ce qui est le cas. Je vous invite à, si vous le pouvez, à écouter la conférence de presse que Mgr Lebrun, archevêque de Rouen, a faite il y a 2 jours devant les journalistes pour se situer par rapport à ça. Et à l'écouter, ça dure 25 minutes, c'est quand même assez long, mais c'est très beau, sa façon d'aborder ce qui retentit en lui. Je l'ai mis en ligne sur mon blog personnel Charismata, mais vous pourrez le trouver aisément sur Internet, parce que l'Église traverse des turbulences graves en ce moment, et que nous avons précisément, je pense, les uns et les autres, à vivre un effort de conversion. Je voudrais terminer peut-être en disant que le pape François, le 20 août, a adressé une lettre au peuple de Dieu par rapport à ces questions de pédophilie, de mœurs, etc. Il a adressé une lettre qui est un peu un appel à l'aide en disant qu'il est nécessaire que l'ensemble des chrétiens se saisissent de la question. Ça veut dire qu'il est un peu débordé au niveau de l'épiscopat et de sa propre possibilité de manager la chose. C'est important, dans cette lettre, il dit qu'au fond, ce genre de péché grave, ce genre de démon ne peut se chasser que par le jeûne et la prière, citant ainsi une parole de Jésus, appelant le peuple de Dieu à jeûner et à prier. Et nous avons décidé en équipe d'animation pastorale que le 30 octobre, je crois que c'est un mardi soir, le 30 octobre, nous proposons une soirée jeûne et prière à cette intention, à 20h, soirée jeûne et prière le 30 octobre, à cette intention, pour répondre à l'appel du pape François et pour retrouver le sens aussi de la pénitence vécue collectivement. Non pas qu'il faille se décharger sur vous de crimes qui relèvent des prêtres et des évêques, mais pour répondre à l'appel du pape François de se saisir de cette réalité et de la présenter au Seigneur dans la pénitence.